Success Media présente Power, l'événement destiné aux femmes entrepreneurs organisé par la MIE de Roubaix et l'ILMN. Découvrez les super pouvoirs des créatrices dans ce podcast. Bonjour Amélie Fabretti.
Bonjour Arnaud.
Merci d'être avec nous sur Success Media. Je suis ravi de vous accueillir pour découvrir une entreprise trop bien.
C'est ça.
Alors, ce n'est pas des superlatifs que j'emploie, même si effectivement cette entreprise, vous allez le voir, elle est superbe. C'est le nom de l'entreprise qui s'appelle trop bien. On va parler vêtements, on va parler conscience collective, éco-responsabilité, puisque vous faites de l'upcycling, c'est bien ça, de vêtements pour les enfants. On va parler de blouses scolaires, d'accessoires, une partie pour nos tout petits bébés qui viennent de naître. On va en reparler au cours de cet entretien. Amélie, j'aimerais qu'on démarre un petit peu cet entretien avec le début de votre histoire. D'où venez-vous avant d'avoir eu l'idée de créer cette société? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel était votre parcours?
Alors, je viens d'une carrière professionnelle dans le développement commercial et marketing.
D'accord.
Et plus particulièrement dans la parfumerie.
Oui. Rien à voir avec les vêtements.
Rien à voir avec les vêtements, exactement. Il y a un peu plus de 4-5 ans maintenant, j'ai décidé de reprendre mes études pour travailler effectivement dans l'univers du textile, qui est un métier qui me plaît depuis très très longtemps.
Oui.
Et parallèlement, j'ai suivi également un MOOC avec HEC Paris et Ticket for Change pour être entrepreneur du changement.
D'accord. Alors ces études, au-delà de l'aspect éco-responsable, oui. Les premières études dans le textile, est-ce que c'était vraiment manuel ou alors on était toujours dans l'aspect marketing et vente
Non, pas du tout. Alors par contre, on était vraiment dans l'aspect manuel, on
va dire.
Manuel
du travail,
voilà,
d'accord.
Voilà, c'est okay. Ça exactement, puisque j'ai fait mes études de stylisme et modélisme,
okay.
Pas très loin d'ici, à Esmode.
À l'Esmode de Roubaix.
Exactement, okay. Tout à fait. Et donc voilà, où j'ai appris effectivement le métier de styliste et de modéliste.
D'accord.
Et mon objectif, c'était vraiment de comprendre comment fonctionnait le vêtement et voilà, de A à Z, tout le parcours, parce que je ne suis pas modéliste, hein,
oui.
Puisque modéliste, effectivement, à la fois ça s'apprend et après c'est beaucoup d'expérience. Donc, voilà.
Alors il y a 4-5 ans, Amélie, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour prendre ce changement à bras-le-corps et vraiment faire un virage à 180 degrés, non seulement au niveau manuel du coup, du travail, et puis de cette prise de conscience de l'éco-responsabilité?
Alors, donc il y a plusieurs choses. La première, c'est que dans les organisations où j'ai pu travailler, je ne m'y reconnaissais plus. C'est-à-dire que le profit était avant tout la priorité.
Oui, l'objectif principal.
L'objectif principal, au détriment effectivement aussi bien de la planète que de l'être humain.
D'accord.
Et ça me gênait profondément. Et également, j'étais à l'aube de mes 40 ans et je voulais aussi absolument réaliser un rêve. C'était de travailler effectivement dans l'industrie du vêtement, mais je voulais absolument le faire différemment et avec beaucoup, beaucoup de sens.
D'accord.
Et donc voilà, et j'ai pu constater aussi que la pollution, toute la production intensive et la surconsommation, l'impact que ça peut avoir aussi bien, encore une fois, sur nous, êtres humains, hein, avec l'émergence de tous les cancers. On sait très bien qu'aujourd'hui, c'est des causes, c'est lié à des causes environnementales,
ouais.
En tout cas 50%
de l'apparition de ces maladies.
Exactement. Ouais. Et donc voilà, donc, c'est essentiellement pour ça que j'ai voulu changer ma façon de travailler, ma façon de vivre. Et puis aussi, on sait aussi aujourd'hui qu'il y a urgence, ça c'est
ouais.
Clair.
Ça, c'est sûr. Ouais.
Et donc voilà, et qu'on ne peut plus faire comme si on ne savait plus. Moi, je pense au quotidien à mes enfants et je ne veux pas que lorsqu'ils soient adultes, ils me disent vous le saviez et vous n'avez absolument rien fait. Voilà.
Ouais, dans cette partie éco-responsable, il y a le mot responsable, effectivement.
Ouais, tout à fait.
Et c'est cet heureux événement aussi qui vous est arrivé, l'apparition de votre aîné,
ouais,
qui est né il y a quelques années aussi et qui vous a fait quelque part prendre conscience de tout cet impact sociétal qu'on pouvait avoir au niveau de l'écologie, etc.
Complètement, ouais,
d'accord.
Tout à fait.
Et donc, cette envie d'entreprendre, d'être indépendante et en même temps, quelque part, de faire sa petite révolution individuelle, entre guillemets, qui changera un petit peu toutes les façons de penser si chacun fait cette petite révolution. Alors, on n'est pas obligé de créer une entreprise, bien sûr, ça passe aussi par des gestes du quotidien. Mais en tout cas, c'était votre volonté d'aller vers ce nouveau mode de travail et aussi de proposition auprès de vos clients. Et c'est comme ça donc qu'est née l'idée de Trop Trop Bien. Mais alors, est-ce que c'est votre enfant du coup qui vous a inspiré d'aller vers ce textile plutôt d'enfant?
Alors en fait, ça s'est devenu d'abord d'une expérience en tant que maman. Donc Jules, lorsqu'il doit rentrer en maternelle, sur la liste de fournitures scolaires, je m'aperçois qu'il a besoin d'une blouse d'écolier et je regarde vite fait ce qui se fait sur le marché. Je suis assez à la fois déçue par l'offre et surtout je trouve dommage d'aller acheter un produit neuf qui est forcément voué à être sali.
Et vous voulez dire que les enfants ne sont pas très propres à cet âge-là? Comment ça?
Non, justement,
mais dans les loisirs créatifs et puis même à l'école quand on apprend, effectivement.
Ouais. Exactement. Et donc je trouvais dommage. Et surtout quand j'ouvrais le placard de mon mari et que je voyais toutes ces chemises inutilisées parfois depuis des années qui étaient juste un petit peu élimées au col ou au poignet ou trop petites.
Si, je veux la garder celle-là. Voilà. Elle me rappelle tel souvenir.
C'est ça.
On est tous pareils.
Et donc, ni une, deux, j'ai pris effectivement une de ces chemises et je l'ai transformée en blouse d'écolier. Et puis, et l'idée a fait son chemin. Et donc, c'est de cette expérience qu'est née effectivement l'idée de Trop Trop Bien, mais qui est apparue des années plus tard.
Hein, d'accord.
C'est pratiquement 10 ans plus tard.
Hein. Ah oui, d'accord. D'accord. L'idée a germé comme ça 10 ans après. D'accord.
Voilà, c'est ça. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, parler d'upcycling. On n'était pas forcément très prêts à le faire. Voilà.
Bien sûr, il n'y avait pas cette conscience collective qui est en train de se mettre en place et de prendre de plus en plus de place, effectivement.
Exactement. Et en fait, lorsque je décide de lancer Trop Trop Bien, je me suis dit qu'effectivement, la blouse d'écolier ou le tablier, c'était vraiment un vêtement qui avait beaucoup de sens parce que déjà, c'est un vêtement durable par sa fonctionnalité, oui, puisqu'il protège les vêtements du dessous. Donc, c'est moins d'usure et donc moins de nettoyage. Des vêtements du dessous, parce que c'est vrai que lorsqu'on récupère finalement nos enfants à la sortie de l'école, il suffit de regarder ce qu'il y a sur leurs vêtements, on a compris leur journée, voilà, ce qu'ils ont mangé à la cantine.
Tu peux me raconter ta journée? Non, je vais regarder sur ta blouse, effectivement.
Donc voilà, et donc du coup, effectivement, ça, je trouvais que ça avait beaucoup de sens de lancer en upcycling ce vêtement utilitaire.
Alors l'upcycling, si on résume un petit peu de toute cette chaîne de transformation qui va se dérouler, on va évidemment parler de vos produits, de ces blouses et puis de tous les accessoires. Avant, j'aimerais qu'on revienne juste, donc cette prise de conscience, elle se fait, donc on a compris, sur à peu près une dizaine d'années. Au niveau logistique et mode opératoire, est-ce que on est plus sur du 4-5 ans? Quand est-ce que vous avez vraiment dit, bon, là j'y vais et je ne m'arrête plus, il n'y a plus rien qui m'arrête? Donc vous avez fait vos études qui correspondent à votre entreprise aujourd'hui. À la fin de ces études, qu'est-ce qui vous continue de vous tirer vers cette entreprise et qui va comme ça concrétiser un petit peu toutes vos journées et qui va rythmer vos journées pour cette création d'entreprise?
Il y a plusieurs choses. Alors déjà, ce qui me... Donc, j'ai lancé Trop Trop Bien il y a 3 ans. C'est, okay, c'est là où je me suis dit, j'y vais. Donc voilà, ce qui m'a aidé à lancer ça, c'est effectivement de prendre conscience. Parce que je pense que quand on est entrepreneur responsable et engagé, il faut à la fois être convaincu par ce qu'on fait. Donc c'est prendre conscience de notre environnement, qu'il y a aujourd'hui une diminution alarmante à la fois des ressources, une population croissante, et puis l'augmentation des inégalités et encore plus actuellement.
Oui.
Donc voilà, ça c'est la première des choses et c'est ça qui m'anime au quotidien. Et la deuxième chose aussi, c'est que je me suis aperçue, en tout cas dans la mission que je me suis donnée, hein, donc c'est réduire l'impact du textile, je me suis aperçue aussi qu'il y avait beaucoup il y a quelques entreprises en upcycling, oui, qui commençaient à émerger et à fonctionner sur ce modèle-là, et je me suis dit qu'il était temps effectivement pour que Trop Trop Bien naisse avec ce projet d'upcycling. Alors ensuite, concrètement, opérationnellement, donc en fait j'ai lancé ça il y a 3 ans. D'abord il y a un peu de recherche, ouais, puisqu'il faut d'abord expérimenter, c'est-à-dire effectivement cette chemise effectivement qui est abîmée et que nous tous on dirait non, je peux plus la porter parce qu'elle est abîmée, ouais, c'est concrètement comment je vais réussir avec ce produit produit qu'on ne veut plus porter à faire un produit neuf. Donc voilà, donc ça va être effectivement pas mal d'expérimentations. Ça va être aussi de construire les patronages. Donc ça, ouais. J'ai travaillé avec une modéliste pour enfants. Ensuite, c'est de faire plusieurs tests, de les essayer évidemment sur les vêtements, ouais. Sur les enfants, voilà, en réel. Et est-ce que ça fonctionne? Est-ce que l'enfant peut bien bouger dedans, etc. Donc c'est de faire vraiment un produit fini qui soit aussi pratique et confortable. Ça, c'était vraiment aussi une priorité.
Et maintenant que votre mari porte des t-shirts et plus de chemises, puisqu'il n'en a plus dans le placard, d'après ce que j'ai compris, avec le nombre de prototypes, une fois qu'on a trouvé ce bon fonctionnement, ouais. Et puis la blouse qui correspond effectivement à ces enfants qui bougent beaucoup, qui vont les mettre à rude épreuve, qu'est-ce qui se passe après?
Alors, du coup, juste pour vous expliquer, c'est qu'au départ, j'avais 5 modèles de tabliers.
Okay.
Et après, en les construisant et en expérimentant, je me suis aperçue qu'il y a des modèles que je ne pouvais pas utiliser parce qu'ils prenaient beaucoup trop de tissu.
D'accord.
Et donc, du coup, l'impact, ça n'avait pas d'intérêt. Parce que l'idée aussi, c'est quand même de réussir à faire une entreprise qui fonctionne
rentable.
Soit rentable. Donc voilà. Et ensuite, après, ça va être de trouver les partenaires avec qui travailler.
D'accord.
Donc voilà. Et donc moi, particulièrement, j'ai commencé au départ à travailler avec des couturières indépendantes qui travaillaient à domicile.
Ok.
Donc où je leur confiais mes modèles qui étaient déjà coupés, elles n'avaient plus qu'à assembler. Mmh. Et puis, au fur et à mesure, je suis rentrée dans des associations dans mon secteur d'activité. Donc par exemple, il y a une grosse association à Roubaix qui s'appelle Fashion Green Hub, qui est maintenant nationale, qui a pour objectif de revaloriser l'industrie du textile, et au départ dans le Nord.
Dans cette belle ville
voilà,
qui a connu l'âge d'or du textile, effectivement.
Et, voilà, tout à fait. Et grâce à ça, ça m'a permis de rencontrer plein de personnes dans différents secteurs de travail, mais dans le textile. Et j'ai pu découvrir effectivement cet atelier d'insertion à Calais, avec qui je travaille et avec qui aujourd'hui mes produits sont confectionnés.
Alors c'est super parce que c'est une entreprise 100% made in France, made in Hauts-de-France, ouais. Et en plus dans ce circuit donc d'upcycling, on le voit, la vie du vêtement est bien plus prolongée que la normale. Il y a plusieurs choses que vous avez dites là dans l'entrepreneuriat qui sont super intéressantes, qui sont notamment le fait de s'entourer des bonnes personnes et des personnes qui savent, et en même temps vous faites aussi preuve de recul et d'ouverture d'esprit en vous ouvrant à plein de mondes différents qui a pu vous apporter ces conseils. Je le dis pour nos auditeurs qui voudraient vraiment ouvrir cette société. Et puis on a parlé de quelque chose d'important et qui n'est absolument pas tabou, on a parlé de rentabilité. Effectivement, ouais. Derrière la confection d'un vêtement, on voit aussi le nombre de matières qui sont utilisées, qui vont être rentables ou pas, et c'est très intéressant d'avoir expérimenté. Et là, pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui souhaiteraient ouvrir votre entreprise, c'est très très important de produire des produits avant de vous lancer dans tout le reste, dans vraiment la production de masse, c'est vraiment faire des prototypes, tester et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
Exactement. Et c'est surtout tester aussi après auprès de vos clients finaux.
Ouais.
Ça, c'est la priorité avant de vous lancer. C'est effectivement, est-ce que votre produit correspond aux attentes du consommateur? Et est-ce que et donc quelquefois, on peut s'apercevoir que non, effectivement, au niveau du prix, ça ne va pas être ça. Et donc, du coup, il faut peut-être revoir sa chaîne de valeur. Enfin, voilà, il faut essayer de trouver effectivement le bon curseur qui fonctionne bien, aussi bien en termes d'impact positif que pour le consommateur.
Et alors dans ce monde qui ne correspond pas encore à toutes ces chaînes de valeur, ouais. Et cette éco-responsabilité qui aborde seulement, hein, on est au tout départ de cette chaîne de transformation, alors vous avez fait des études pour ça, mais comment à chaque étape de l'entreprise et à chaque étape de la production et puis surtout de la création d'entreprise, on met cette contrainte qui malheureusement est encore une contrainte, au cœur de ce développement d'entreprise. En fait, c'est-à-dire comment on fait pour garder le cap et puis pas retomber dans les vieux réflexes de notre société qui sont là depuis des années et des années.
Ouais, et ce que je disais tout à l'heure, effectivement, déjà, je pense qu'il faut vraiment être convaincu par ce qu'on fait,
ouais.
Avoir la foi, parce que c'est essentiel. Et donc voilà, et en fait, l'impact est tellement positif que finalement, on n'a pas envie, enfin moi, je suis très heureuse d'avoir une entreprise qui a un impact positif aussi bien sociétal voilà que sur l'environnement. Enfin, c'est super. Et donc, du coup, j'ai vraiment pas envie de retourner en arrière. Et je veux absolument pas refaire ce qui existe déjà. Et c'est vraiment pas l'objectif, parce qu'aujourd'hui, on est dans le monde de demain. Mmh. Le fameux monde de demain. Et c'est, je pense que l'entreprise de demain doit être comme ça. Enfin, c'est une évidence pour moi.
C'est essentiel.
Voilà.
Et alors, vous qui avez connu un petit peu les deux aspects, parce que forcément, dans votre ancienne vie et ancienne entreprise, on fonctionnait, je vais dire maintenant, à l'ancienne, et puis maintenant, avec tous les nouveaux procédés éco-responsables que vous mettez en place, est-ce que vous qui côtoyez des fournisseurs, qui avez côtoyé des fournisseurs et qui en côtoyez maintenant, et les futurs clients, etc., est-ce que vous sentez que les mentalités changent et que du coup ça va aider votre entreprise à émerger ce changement de mentalité? Est-ce que les gens sont prêts justement à passer à l'étape supérieure?
Oui, de plus en plus en fait.
Ouais.
Plus particulièrement, je pense que lors du premier confinement, il y a eu vraiment une grosse prise de conscience. Et aussi bien effectivement au niveau des fournisseurs et des consommateurs, il y a une vraie prise de conscience. Et moi, je le vois très clairement au niveau des ventes, et même quand je parle les contacts que je peux avoir, effectivement, y a une réelle prise de conscience.
Alors, parlons un petit peu de vos produits maintenant.
Okay.
qui sont très colorés. Alors, il faut savoir que ce sont des produits uniques.
Tout à fait. Hein,
puisque, voilà, que des pièces uniques, pas à la chaîne, justement. C'est un produit original et forcément, on le comprend, puisque c'est du recyclage. Évidemment, vous allez pouvoir vraiment trouver des choses très originales. Alors, quand on arrive sur votre site internet, c'est maintenant que je vais vous le donner, hein, c'est trop-trop-bien.com, c'est super simple. Vous tapez et là, on arrive sur une super belle photo pleine de couleurs, pleine de motifs différents. Et parlez-moi un petit peu de l'histoire de ces blouses. Est-ce que dans votre chaîne de production à Calais, vous voyez passer un petit peu les produits? Est-ce que vous avez une histoire avec chacun des textiles qui arrivent? Parce que c'est rigolo, on se dit, ça peut être porté par un monsieur, par une dame, par n'importe quoi. Ce vêtement a eu une vie avant et va avoir une vie après. Est-ce qu'il y a ce côté un petit peu rigolo aussi de la vie du produit?
Oui, alors exactement. Alors déjà, en termes de chaîne de production, déjà, ça va se passer comment? Ça va déjà, la collecte des chemises.
D'accord.
Alors, c'est comment je collecte?
Ah, vous faites tout à partir de chemises, déjà?
Oui, alors je travaille... Alors, aujourd'hui, effectivement, sur la blouse d'écolier, je travaille... Alors, il y a deux choses. Je travaille essentiellement la chemise pour homme.
D'accord.
Et après, du linge de maison.
Ok.
Voilà, je vais en général faire une association des deux.
D'accord.
Donc déjà, la première chose, ça va être la collecte. J'ai énormément de dons.
Ok.
Voilà, de particuliers. Ça, c'est vraiment super. Ensuite, je peux aller m'approvisionner directement au centre de tri de Bruy-à-la-Bussière au Relais.
Ok. Voilà, c'est un partenariat que vous avez mis en place, du coup?
Oui, ouais, tout à
d'accord,
fait.
D'accord, génial.
Et ensuite, il m'est arrivé tout au début d'aller chiner également chez Emmaüs.
Ok, ouais. D'accord. Donc, il faut commencer quelque part, de toute façon. C'est l'art de la débrouille, l'entrepreneuriat, c'est l'art de la débrouille, on est d'accord.
Donc, à partir du moment où on a la collecte, après, effectivement, à travers les dons, etc., d'abord, il y a le tri, parce que je ne peux pas utiliser n'importe quelle chemise. Mm-hmm. J'ai des contraintes. Donc voilà, des contraintes aussi bien en termes de coupe de vêtements que de qualité de vêtements. Moi, j'utilise essentiellement du 100% coton.
Parce que vous travaillez avec les enfants aussi, il y a tout un tas de normes, effectivement, contact de la peau, etc.
Ouais,
j'imagine.
Alors, donc du coup, les blouses d'écolier particulièrement ne sont pas au contact de la peau, mais c'est vrai que c'est une blouse qu'ils doivent porter toute la journée. Donc idéalement, effectivement, un 100% coton,
d'accord,
c'est respirable et c'est
bien plus agréable.
Bien plus agréable que du polyester.
Tout à fait.
Voilà. Donc ensuite, effectivement, donc il va y avoir tout ce tri, et ensuite après, il va y avoir la découpe, notamment particulièrement pour la chemise, mm-hmm, où il faut déconstruire la chemise. Et donc voilà. Et ensuite après, je vais faire l'association des tissus. Parce
d'accord,
que l'idée, c'est que ces blouses d'écolier, c'est des vêtements qui sont pour enfants. Et moi, en tout cas, dans ce que j'aime, c'est que ce soit des produits qui soient sympas et qui soient mignons et qui soient beaux, finalement. Mm-hmm. Donc voilà. Donc du coup, il va y avoir l'association des tissus pour faire un vêtement fini qui soit fun.
Mm-hmm.
Et ensuite, après, je confie tout à l'atelier d'insertion.
D'accord.
Qui va effectivement couper et assembler l'ensemble des pièces.
Alors cette partie conception, elle est super intéressante, parce que donc au moment de la collecte, vous arrivez, admettons, sur le lieu de confection, et vous allez commencer à regarder un petit peu ce qui peut se faire, et vous allez prendre les matières, les associer ensemble et puis faire un croquis ou une projection. Comment
alors,
ça se passe?
Alors moi, mes modèles, donc ils sont déjà travaillés bien en amont, hein, puisque donc c'est les modèles que j'ai travaillé avec une modéliste pour enfants, donc qui sont aujourd'hui j'ai trois modèles. De de tête,
référence.
De référence. Ensuite, après, effectivement, en fonction de l'âge, de la taille du vêtement final, je vais choisir effectivement les chemises qui vont correspondre. Et ensuite, après, je vais aller associer les tissus pour faire le produit fini.
Et ça donne des produits superbes. Alors, les trois modèles dont on parlait, c'est les blouses d'enfants. Hein, vous avez la fermeture devant, les boutons devant, les boutons derrière. Et puis, le troisième modèle.
Il s'enfile comme un t-shirt.
Il s'enfile comme un t-shirt.
Il n'y a pas d'ouverture, pas de fermeture.
D'accord, ça évite de mettre lundi avec mardi.
Exactement, c'est ça.
Mais c'est super. Et puis, alors, on parlait un petit peu de cette upcycling et puis de vraiment l'économie circulaire dont vous profitez avec cette manière de traiter les vêtements. Il y a de la surmatière, forcément, puisqu'une chemise d'adulte, d'homme adulte, forcément, on va se dire que ça réduit considérablement la taille et, avec la blouse finale. Qu'est-ce que vous faites de l'excédent de tissu?
Alors, l'excédent, je le réutilise pour faire les accessoires. Donc, on va faire des trousses, on va faire des petites barrettes pour les cheveux. Et ensuite, après, on va des protège-cahiers. On va également développer aussi ce que j'appelle la pochette d'artiste. Hein. C'est une petite pochette où on peut mettre le coloriage avec les feutres et puis il y a une petite trousse associée.
Super.
Et il va y avoir également l'orange ardoise. Hein. L'orange ardoise qui est utilisé par tous les écoliers en France, qui permet d'avoir l'ardoise, les feutres et le chiffon. Puisque j'en ai parlé avec pas mal d'institutrices qui me disaient à chaque fois, il manque soit l'ardoise ou il manque soit les feutres ou soit le chiffon. Il manque toujours un truc.
Ce qui fait qu'il y a le doigt tout orange ou tout blanc à la fin de la journée.
Voilà. D'où le tablier.
Voilà, d'où le tablier. Parce qu'on s'essuie souvent le doigt dessus. C'est vrai. Et donc après, s'il y a vraiment les derniers morceaux de tissu, eux partent dans un système de recyclage normal.
Tout à fait. D'accord. Ou après, moi, je garde les chutes. J'ai pu faire, par exemple, un énorme pouf où je mets toutes mes chutes de tissu à l'intérieur. Au lieu de faire du rembourrage avec du synthétique ou des choses comme ça, j'utilise effectivement mes chutes de tissu.
C'est jusqu'au bout.
Voilà,
alors, cette chaîne de recyclage, elle va encore plus loin. Et ça, je trouve ça très innovant. Oui. Parce que là, dans ce que vous avez prévu dans cette société, c'est que donc mon enfant a 2 ans. Donc, ça va, y a tous les âges, hein, mais les blouses d'écolier, ça va de 2 à 7 ans,
il me semble.
C'est ça. Mon enfant passe de la taille de 3 ans à 4-5 ans. Qu'est-ce que je peux faire de cette blouse de 2 à 3 ans si je n'ai pas prévu de faire un petit frère ou une petite sœur?
Pour tout ce qui est partie blouse d'écolier, là je propose toujours, effectivement, même pour les masques, à chaque fois je propose toujours une solution pour dire comment on peut faire pour le produit lorsqu'il est en fin de vie, comment je peux le réutiliser et le recycler. Après, pour la gamme de vêtements bébés.
Ah, c'est la gamme qui arrive,
voilà, c'est
pour ça. Vous allez voir, c'est génial.
Voilà.
Donc là, il y a pour nos petits bouts de choux, vraiment tout petits qui viennent de naître, il y a une gamme qui arrive, qui est en cours de production, qu'on ne peut pas encore voir sur le site. Je vous promets une info en exclusivité, on aura peut-être une date avant la fin de cette interview, mais voilà, ces produits, comment ça va se passer?
Alors, pour les vêtements Renaissance, donc c'est le nouveau vestiaire de bébé, donc vous allez découvrir effectivement une gamme de vêtements toujours réalisée en upcycling et solidaire. Et donc l'idée, c'est de se dire, lorsque bébé ne peut plus porter ce vêtement, vous envoyez un petit mail à etapres@trotrobien.com. Vous allez recevoir un bon que vous allez coller sur votre enveloppe. Une fois que j'ai récupéré le produit, moi je vais effectivement le regarder et en fonction de l'état, je vais rembourser jusqu'à 30% du produit du prix initial. Et ensuite, s'il y a des petites réparations à faire, elles seront faites et ensuite on va les remettre en ligne sur le site internet. Et après, si par contre le produit n'est plus utilisable à ce moment-là, il repartira dans un circuit de recyclage classique.
Ou dans le pouf. Mais c'est super, vous voyez, là, on va encore plus loin, et c'est-à-dire que ce vêtement, après avoir été transformé et reporté, il va pouvoir être remis en ligne, réparé et encore porté de cette manière. Après, évidemment, tout le nettoyage et les réparations qui conviennent, vous allez pouvoir le remettre en vente. Et ça, c'est vraiment un concept innovant et génial et qui devrait séduire la plupart de vos clients. Alors, vous parliez de tests justement auprès de clients. Est-ce que vous en avez déjà parlé autour de vous de ce concept?
Alors oui, parce que donc, j'ai pu... j'étais lauréat des Mailmakers et à cette occasion, j'ai fait un financement participatif où effectivement la nouvelle gamme Renaissance était en précommande.
D'accord.
Et donc du coup effectivement ça a fonctionné puisque le financement est réussi, donc
c'est super.
Donc voilà. Ouais.
Félicitations.
Merci beaucoup.
Alors là, vous avez passé une journée avec organisée par l'ILMN et puis la Fabrique à entreprendre, la MIE de Roubaix, qui s'appelle Power, donc qui organisait qui rassemblait un collectif de femmes entrepreneurs qui allaient présenter un petit peu leur entreprise, leur façon de fonctionner, qui allaient partager sur leurs expériences. Qu'est-ce que ça fait d'être au milieu de ce collectif féminin pour l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on se sent plus forte? Est-ce qu'on partage des idées? Qu'est-ce que ça a de plus de se rassembler justement entre femmes entrepreneurs?
Alors moi je trouve que c'est très important parce que certes nous sommes différentes des hommes, mais surtout faut se dire que j'entendais un webinaire il n'y a pas très longtemps qui disait effectivement une femme lorsqu'elle se lève le matin elle a deux à trois fois plus de charge mentale qu'un homme.
Mm-hmm.
Donc effectivement le fait de pouvoir parler entre nous, on a toutes finalement les mêmes problématiques. Je trouve qu'il y a moins de jugement et l'échange est beaucoup plus simple, je trouve.
Mmh.
Et donc du coup je trouve que c'est plus facile pour réussir à lancer son projet.
Bien sûr. Alors pour ceux qui se diraient derrière le poste oui mais c'est une forme de discrimination, etc. On en discutait justement hors interview, pas du tout, c'est juste le fait de pouvoir se retrouver avec des personnes qui vivent les mêmes choses dans l'entrepreneuriat mais aussi dans la vie de femme et pareil dans la vie d'homme. Nécessairement, il n'y a pas forcément ce rôle discriminatoire. Au contraire, c'est vraiment se comprendre et puis se tirer les unes les autres.
Ouais, c'est tout à fait ça. Et en fait, je pense que entreprendre au féminin, c'est vraiment différent parce que, encore une fois, on va tendance à vouloir être performante sur tout,
mm-hmm.
dans toute notre vie. Et à un moment donné, ce n'est pas possible. Et donc, à un moment donné, il faut se soutenir et il faut juste se dire qu'on ne peut pas être bon partout et qu'il faut choisir, il faut faire des choix et de pouvoir parler de ces problématiques avec d'autres personnes qui connaissent les mêmes problématiques, et forcément c'est plus facile et donc du coup ça nous permet de croître beaucoup plus facilement, je trouve.
Il y a un côté organisationnel qui coule de source entre vous.
Tout à fait.
Vous
exactement.
Donnez des petites clés, forcément des méthodes que chacune a pu expérimenter.
Exactement, ouais, tout à fait.
Alors cette journée Power a été sympathique parce que vous avez pu donc créer cette émulation un petit peu autour de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui l'entrepreneuriat c'est quoi pour vous, Amélie? J'imagine que c'est toute votre vie comme la plupart des entrepreneurs,
ouais,
mais ça rime avec quoi dans votre quotidien? Est-ce que vous avez réussi justement à partitionner un petit peu votre vie pour pouvoir donner de l'attention à chacun des pans de votre vie?
Ces dernières semaines, pas trop, mais c'était un peu rude. Mais l'objectif, effectivement, c'est vraiment réussir à faire cette séparation à la fois entre vie professionnelle et puis vie personnelle, et puis surtout au niveau des enfants, parce que on est avant tout maman. Et donc ça, effectivement, c'est encore pas forcément très évident, mais c'est vraiment se réussir à se donner des objectifs. Et des missions dans la partie de sa journée qui est pour le professionnel et évidemment et laisser ce temps pour et vraiment s'arrêter en fait, réussir à s'arrêter pour la partie perso.
J'allais vous demander justement un conseil pour les futurs entrepreneurs, parce qu'il faut le savoir, on donne toute sa vie comme on l'a dit, mais ça ne veut pas dire qu'on doit laisser ce temps entrepreneurial prendre le dessus sur l'ensemble de sa vie, sinon on ne s'en sort pas effectivement.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 10 prochaines années? Parce qu'il faut aussi, quand on est entrepreneur, se donner des objectifs, voir un petit peu à long terme, ou alors simplement une envie et juste un objectif à atteindre. Quel serait le vôtre pour l'entreprise trop trop bien?
Trop trop bien. Ouais, ouais. Que trop trop bien soit une vraie alternative dans les 10 prochaines années aux vêtements et accessoires pour enfants. Je pense que ce qui existe aujourd'hui existera, je pense, dans 10 ans. Mais je pense que trop trop bien peut être aussi une autre option.
Voilà. Super. Alors là, pour l'instant, vous êtes exclusivement sur le net. Quand la situation sera améliorée, effectivement, et qu'on pourra retourner à se balader et puis à découvrir des boutiques, etc., est-ce que c'est aussi une ouverture que vous souhaitez faire de travailler avec ces boutiques du centre-ville ou même dans la métropole lilloise, même en France?
Oui, alors ce sera effectivement un projet de développement en 2021, effectivement, aussi bien d'un point de vue local que national.
C'est super. Ça ouvre de super belles perspectives. Je suis ravi de vous avoir accueilli, Amélie Fabretti, donc directrice, gérante et puis fondatrice surtout de cette entreprise qu'on appelle Trop Trop Bien. Je vous invite, auditeurs, à aller découvrir ce site internet qui est superbe. Et puis, c'est Noël, donc c'est bientôt Noël. En tout cas, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec les blouses d'enfants et vous remercierez Amélie quand votre enfant sortira de l'école avec sa blouse toute tachée, mais ses vêtements intacts.
Voilà.
Merci beaucoup, Amélie.
Merci,
à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, partager ce podcast autour de vous. Et pour ne rien manquer de notre actualité, rendez-vous sur success-media.fr. À bientôt.